Rosa, Rosa et Rosum, souvenir de classe, il y a longtemps, le tango des forts en thème, comme le chantait Jacques Brel, Rosarum, Rosis, Rosis, tout oublié, heureusement, errare humanum est, je m'en souviens, Sénèque ou Astérix. J'en perds mon latin. L'expression est familière pour dire que l'on n'y comprend plus rien, mais c'est aussi le titre de l'essai de Françoise Nord pour nous raconter que finalement, tout ou presque dans la langue française vient du latin. Bonjour Françoise Nord.
Bonjour Pascal, bonjour.
En disant cela, j'espère, j'exagère un peu quand même, parce que le latin est en bonne place dans l'origine des mots, mais ce n'est pas la seule origine.
Oui, tout à fait. Bon, il est évident que le latin est à l'origine d'environ 90% du lexique français. Bon, ne parlons pas de sa grammaire, évidemment, mais le français a aussi d'autres sources en ce qui concerne son vocabulaire, notamment les anciennes langues germaniques, un peu d'anglais, un peu d'italien également, et d'espagnol, et d'autres langues, mais en proportion beaucoup moindre que les langues que je viens de citer.
Donc dans cet essai, vous vous concentrez sur les 90% du lexique qui vient du latin. Vous faites de l'étymologie. C'est quoi le boulot de quelqu'un qui fait de l'étymologie ? C'est comme faire de l'archéologie ?
Disons que ce serait une sorte d'archéologie des mots, en effet, mais c'est surtout un travail d'enquête, car il faut remonter aux sources d'un mot pour savoir d'où il vient exactement, comment il a été formé, dans quel pays ou dans quelle région lorsqu'on parle des siècles passés. Et c'est un travail qui demande à comparer des mots qui se ressemblent, mais qui parfois n'ont pas le même sens. Donc ce sont des pièges. Et il faut trouver les bons mots frères ou cousins. Et évidemment, le graal de cette recherche, c'est de trouver le mot qui est vraiment à l'origine de ce mot. Et cela fait intervenir, évidemment, en ce qui concerne le français, la langue latine, mais aussi les autres langues que j'ai citées. Et par-delà toutes ces langues, la langue que l'on pense être à l'origine des langues indo-européennes, que nous appelons justement l'indo-européen.
Et alors, vous travaillez avec quels outils pour faire cette enquête ?
Eh bien, essentiellement avec des dictionnaires d'étymologie du latin, du grec, de l'allemand, du russe aussi, du français, bon, cela va sans dire, de l'anglais aussi, c'est-à-dire des dictionnaires étymologiques des langues qui ont eu le plus de contact avec l'ancien français, le latin en premier, mais aussi les autres langues en question.
Mais c'est un travail de compilation, Françoise Nord, ou c'est un travail de découverte ?
C'est un travail de comparaison essentiellement, de comparaison en s'appuyant sur ce que l'on appelle les règles dérivationnelles, parce que les changements de forme de tel ou tel mot en passant de telle langue à telle autre langue, ces changements obéissent à ce que l'on appelle des règles. Ils ne se font pas de la même façon de telle langue à telle langue et ou de la langue mère à une troisième langue. Et comme l'on observe des régularités dans ces évolutions, on en déduit ce que je viens de nommer des règles dérivationnelles, et c'est à l'aide de cet outil que l'on peut remonter au père ou à la mère du mot que l'on étudie.
L'étymologie du mot étymologie.
Oui, alors...
c'est quoi ?
Alors, c'est un mot qui est entré en français en 1175. C'était il fallait traduire un ouvrage latin, et l'auteur de la traduction a francisé le mot latin etymologia, en français étymologie. Il faut savoir que le nom latin etymologia venait lui-même du grec etymologia, formé de l'adjectif étymos qui signifie vrai et du nom logia qui signifie étude. Donc l'étymologie, c'est l'étude du vrai et appliquée à la linguistique, l'étude des vrais mots, des vrais sens.
Donc c'est une science qui remonte très loin, au XIIe siècle minimum.
Oui, au minimum, c'est une science qui a toujours plus ou moins intéressé les anciens, dès les auteurs classiques, mais elle fut, disons, codifiée et devenue vraiment science au début du XIXe siècle. Auparavant, il y avait quelques travaux, mais ce n'était pas encore les vraies bases de l'étymologie, voire de la linguistique en général, telle que nous connaissons ces sciences aujourd'hui.
Alors, faire de l'étymologie, Françoise Nord, à quoi ça sert ? Je vois bien, c'est un outil de connaissance, mais à quoi ça peut nous servir ? Par exemple, dans votre livre, vous rapprochez le mot « grammaire » de « glamour ». Est-ce que ça rend la grammaire plus glamour ou plus séduisante ?
Eh bien, écoutez, je le souhaiterais en tant que linguiste, mais je vous dirais qu'il y a... La linguistique fait partie de ces sciences humaines pour lesquelles on ne voit peut-être pas un intérêt immédiat comme pour les sciences exactes, mais c'est un intérêt beaucoup plus profond qui aide à la connaissance de l'homme au sens très large. Parce que lorsque l'on fait de l'étymologie en l'occurrence, on est obligé plus ou moins d'étudier à côté d'autres domaines que sont notamment l'histoire pour voir les relations des peuples entre eux qui expliquent les allées et retours des mots d'une langue à une autre. On étudie également la littérature, c'est évident. On peut aussi étudier, se référer un peu à la géographie pour voir justement comment et où les mots ont voyagé. Donc c'est une science, et d'ailleurs on les appelle les sciences du langage, c'est une science qui ouvre sur beaucoup d'autres domaines et qui apporte une sorte d'ouverture sur d'autres champs de recherche.
Alors votre essai au titre tout à fait trompeur, car vous n'avez rien oublié de votre latin, regorge d'exemples assez savoureux. Nous allons le parcourir ensemble, Françoise Nord, mais comme il est de coutume le lundi, oui, nous allons ailleurs. Ailleurs à Niamey pour un festival de théâtre un peu particulier. Bonjour Beto.
Bonjour.
Vous êtes metteur en scène et directeur d'une ONG baptisée Forge Art. Quelle est sa mission ?
Alors, la mission de Forge Art, c'est vraiment de concilier l'art, la culture et les projets de développement. Aussi bien dans le renforcement des capacités des femmes et des jeunes filles à Niamey et surtout dans les quartiers périphériques de Niamey, en leur apprenant des métiers, genre la confection des objets de com, le savon liquide, le savon moringa, la couture et ce qui va avec, tout en gardant en tête que quand même nous sommes des artistes et c'est par le biais de l'art et de la culture que nous créons le rapprochement et les relations humaines qui vont avec.
Et donc, vous travaillez dans des collèges et des lycées de Niamey, donc la capitale du Niger, et pour certains, vous leur proposez de faire du théâtre.
Alors, il faut dire que le festival de théâtre interlycée est un festival assez particulier, l'unique même en son genre au Niger, parce qu'il dure 6 mois. Et c'est un événement essentiellement pour les scolaires, les collèges et les lycées de Niamey.
Et il se passe quoi dans ce festival ?
D'abord, il y a la mise en place des ateliers de pratique théâtrale dans ces lycées et collèges. Et dans ces ateliers, on a à peu près une quinzaine d'élèves volontaires. D'abord, on choisit un texte. Et au bout de 2 mois, ce même texte est mis en lecture à haute voix au CCFN, le Centre culturel franco-nigérien de Niamey, et dans les établissements. Après la lecture à haute voix de ce texte, l'artiste travaille avec les élèves pour aboutir à une création, une brève théâtrale de minimum 8 minutes et maximum 15 minutes. En amont de ça, il y a un concours d'écriture dramatique ouvert donc aux élèves et les textes les plus aboutis sont aussi primés.
Et c'est donc ce qui va se passer au Centre culturel français ce week-end. C'est la 13e édition, donc ça veut dire quand même que l'initiative a pris et que le théâtre motive les jeunes.
Absolument. Nous avons initié ce festival en 2008 et depuis que nous l'avons créé avec 8 écoles, aujourd'hui nous avons à peu près une quinzaine, voire même une vingtaine d'écoles qui adhèrent à cela. Aussi bien que les enseignants sont impliqués, les parents d'élèves sont impliqués, les élèves sont impliqués et les partenaires principaux de l'activité, notamment le Centre culturel franco-nigérien Jean Roche de Niamey et l'ambassade de France au Niger.
Et pour les jeunes, ça change un peu la vie ?
Alors, il faut dire que le contexte nigérien est assez particulier parce que le théâtre, c'est, ou même les activités artistiques et culturelles, depuis quelques années, quelques décennies, ont connu beaucoup, beaucoup de problèmes dans le secteur artistique et culturel, et dans le secteur scolaire. Parce que tout simplement, il faut dire que le système éducatif nigérien rencontre toujours énormément de difficultés, ce qui petit à petit a exclu les activités artistiques et culturelles au sein des établissements. Le but est donc de ramener ces activités-là au sein des établissements parce que le théâtre, ça fait énormément d'ouverture pour les jeunes, ça les amène à lire et surtout de pratiquer aussi sur le plateau une pièce de théâtre, une activité artistique qui servira énormément à renforcer leur éducation.
Merci beaucoup Beto et bravo parce que c'est vraiment une initiative formidable et donc restitution de ces ateliers avec ce festival Festili les 27 et 28 mai au Centre culturel français Jean Rouch à Niamey. Merci beaucoup.
Merci à vous monsieur.
Titre de la musicienne camerounaise Irma qui sort son quatrième album ces jours-ci, Douala Paris, sur RFI, évidemment. Françoise Nord avec Beto, on vient d'évoquer l'importance de la lecture pour les jeunes gens au Niger, mais on pourrait le dire partout. Si l'on parle d'étymologie, puisque c'est votre boulot et c'est l'objet de ce livre, J'en perds mon latin, le lien entre la lecture et l'intelligence est avérée, c'est-à-dire que l'étymologie dit que c'est lié.
Oui, tout à fait. Ces deux mots qui apparemment sont, on pourrait dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'éléments en commun, ces deux mots remontent en réalité au verbe latin « legere » qui vient lui-même d'une racine indo-européenne, la racine « leg » à laquelle on a attribué l'essence de « collecter, ramasser ». Et ce qu'il faut savoir, c'est que en latin même, le verbe « legere » signifiait aussi « collecter, ramasser, recueillir ». De là, par métaphore, il en est venu à signifier « lire », c'est-à-dire « recueillir les lettres, les collecter pour former du sens ». Ce verbe « legere » eut naturellement en latin plusieurs dérivés, dont le verbe « intellegere » qui signifiait « comprendre ». Ce verbe lui-même n'est pas passé en français, mais son participe présent « intelligence » est devenu « intelligent » en français. C'est-à-dire que celui qui est intelligent, c'est celui qui comprend les choses, qui sait, en les amassant, en les collectant, comprendre les différents liens entre elles.
Alors, ce qui est intéressant dans cette explication, Françoise Nord, c'est qu'il y a le latin, mais il faut revenir à l'indo-européen. Et d'ailleurs, chacun de vos chapitres commence par cette racine indo-européenne. Est-ce qu'elles sont quantifiables, ces racines de l'indo-européen ?
Oui, ces racines de l'indo-européen sont... représentent plusieurs centaines d'unités. Elles ont commencé à être établies vers la fin du 19e siècle par des chercheurs qui étaient pionniers, des linguistes qui étaient pionniers en la matière, en comparant justement, comme je le disais tout à l'heure, les langues les plus anciennes présentes sur le sol européen que l'on définit comme étant d'origine indo-européenne.
Donc ce serait la langue mère, en fait.
Voilà, ce serait la langue mère de toutes ces langues, du latin, du grec ancien, du russe ancien pour le groupe des langues slaves, des langues celtiques qu'il ne faut pas oublier, naturellement aussi des langues germaniques, ainsi que des langues baltes. Donc en comparant toutes ces langues, et plutôt évidemment de préférence dans leurs versions les plus anciennes, on en est arrivé, en fonction des fameuses règles dérivationnelles et phonétiques dont j'ai parlé tout à l'heure, on en est arrivé à restituer, du moins nous le pensons, des racines indo-européennes.
Cela veut dire que l'humanité, à un moment, a parlé la même langue ?
C'est ce que l'on pense. Alors évidemment, on pourrait aujourd'hui en douter, mais il faut savoir que nous parlons là d'un état de langue qui remonterait à 6 à 7 000 ans de maintenant, donc à moins 4 000 ou moins 5 000 ans avant Jésus-Christ.
Hier, avant-hier,
à l'échelle de l'humanité, je veux bien, il n'y a pas de problème, mais cela concernait également, il faut y penser, un petit groupe humain. Ils étaient très peu nombreux. Après, évidemment, les groupes ont grossi, se sont essaimés un peu partout sur le sol européen et eurasiatique. Il y eut des différences de langue, évidemment, mais c'est assez ancien et cela concernait un petit nombre de toute proportion gardée, un petit nombre de personnes.
Alors, existe-t-il une langue indo-européenne, une langue première ? Oui, répond aussi le linguiste et sinologue Laurent Sagard.
Certaines choses passent très facilement d'une langue vers l'autre, tandis que d'autres passent très difficilement. Alors, les choses qui passent très facilement, c'est ce qu'on appelle le vocabulaire culturel, c'est-à-dire le vocabulaire des sciences et des techniques, de l'habillement, de la philosophie, de la religion, du commerce. Par contre, il y a un autre type de vocabulaire qui passe très difficilement d'une langue à l'autre, c'est le vocabulaire qu'on appelle de base. Alors, des verbes d'action universelle, comme manger, dormir, mourir, tout cela, ça passe très difficilement. Et par-dessus tout, ce qui est très difficile, ce qui ne s'entraîne pratiquement jamais, c'est ce que les linguistes appellent la morphologie flexionnelle. C'est l'ensemble des formes que le même mot peut prendre dans la phrase en fonction de la grammaire. Par exemple, les différentes formes d'un verbe, la conjugaison, ou les déclinaisons des noms. Les noms changent selon le rôle qu'il a dans la phrase. Un sujet n'a pas la même terminaison qu'un objet, par exemple. Donc, ces listes de terminaisons, ça ne passe pratiquement jamais d'une langue à l'autre. Or, ces choses-là, précisément, sont celles que l'on retrouve dans toutes les langues indo-européennes.
Remonter à l'indo-européen, voilà donc votre démarche aussi, Françoise Nord, et je le disais, tous les chapitres de votre livre démarrent sur une racine de cette langue, Pousta, Rup, il y a Streg aussi, et en découvre, pour prendre le titre de l'un de vos chapitres, parce que vous n'êtes pas dénué de savoir, mais aussi d'humour, que pour lutter contre le stress, il faut tricoter des strings. C'est quoi cette affaire ?
Eh bien, c'est une affaire, je comprends que cela paraisse amusant, mais justement, ces trois mots, stress, tricot et tricoter et string, remontent tous les trois à la même racine indo-européenne, la racine Streig, que l'on écrit S-T-R-E-I-G, que moi je prononce à l'allemande, excusez-moi, racine à laquelle on accorde le sens toucher, frotter. Cette racine, évidemment, a donné des mots latins, mais aussi des mots aux langues germaniques, qui sont justement les trois mots en question, après de multiples changements au cours des siècles, voire des premiers millénaires. Elle aboutit en ancien germanique, dans les anciennes langues germaniques, à différentes formes. Et ces différentes formes ont donné trois mots de sens très différents, stress, tricot et string, qui apparemment, hormis d'avoir en commun la séquence TR, n'ont rien à voir d'un point de vue sémantique, je vous l'accorde sans problème.
Et vous dites ça très sérieusement. Hein.
Mais oui, mais c'est une science sérieuse, même si de temps en temps, nous avons en effet l'occasion de bien nous amuser en découvrant ce genre de surprise.
Et alors, en ce jour des conseils des ministres, j'ai relevé dans votre livre, si on en revient à l'étymologie, que tout ministre est un minus.
Oui, je comprends aussi votre surprise et je peux comprendre aussi éventuellement la peine que cela peut faire à certains. Mais il faut savoir qu'à l'origine, nous avons une autre racine indo-européenne, la racine MEI, MEI, qui signifie à laquelle on attribuait le sens de petit, qui s'est poursuivie en latin dans la langue dans laquelle elle a donné l'adjectif minor, qui signifiait moindre, plus petit. Ce même minor, puisqu'on parlait à l'instant dans ce que nous venons d'entendre, en latin il y avait des déclinaisons, des formes différentes. Minor en latin prit la forme minus, prononcé minus, qui signifiait le plus petit. Et donc ce nom, cet adjectif minor, a donné en latin le nom ministère, qui signifiait celui qui aide à faire une tâche, le serviteur, l'inférieur. Ce nom, évidemment, ministère est passé en français. Il est devenu ministre. Au début de son emploi en français, c'est-à-dire il y a tout de même assez longtemps, puisque c'était durant la première moitié du XIIe siècle, il n'avait que le sens de celui qui accomplit une tâche pour un autre. C'est au fil des siècles qu'il prit le sens que nous lui connaissons aujourd'hui, le sens politique. Mais il faut tout de même garder en mémoire que ministre vient de minus.
Et il y a donc des surprises dans votre livre, dans les deux sens, parce que vous faites des liens entre des mots que l'on n'aurait pas forcément rapprochés, minus, ministre, mais vous dénoncez aussi des apparentes ressemblances qui sont des faux amis. Ainsi, le chiot ne descend pas du chien.
Et oui, et je comprends que cela soit une surprise.
Ah, vous me comprenez, donc tout va bien.
Et pourtant, c'est ainsi. Le nom français chien vient du latin canis, de même sens. Mais chiot n'est pas un diminutif de chien, contrairement à ce que l'on pourrait en effet penser. Chiot, c'est un mot dialectal du centre et de l'ouest de la France, une déformation du nom d'ancien français chael, écrit C-H-A-E-L, qui avait ce sens de petit chien, qui vient lui-même du nom latin catellus, qui signifiait petit d'un animal, mais petit de n'importe quel animal. Et c'est en se croisant avec canis que le descendant chiot en est venu à se spécifier en tant que petit du chien.
Et on découvre encore dans votre livre, on continue un peu notre bestiaire, que le zèbre n'est pas africain, mais il est portugais.
Exactement. Lorsque les Portugais arrivèrent en 1610, durant leurs explorations géographiques que l'on connaît, ils tombèrent sur cet animal qu'ils ne surent pas comment nommer. Ils lui donnèrent donc un nom portugais, le nom zébra, qui avait le sens de âne sauvage. Ce qui est amusant, c'est que ce nom zébra est une déformation, après de multiples transformations, du nom latin equiferus, qui signifie littéralement cheval sauvage. Or, le zèbre n'est ni un cheval au sens strict. Bon, il est peut-être sauvage, mais il n'est pas violent, il n'est pas dangereux. Seulement, les Portugais, au début du XVIIe siècle, en découvrant cet animal, ne surent quel nom lui donner et pensèrent à l'âne sauvage qui était courant chez eux.
Que serions-nous sans vous, Françoise Nord, et sans le latin? D'ailleurs, l'apprentissage du latin et du grec a toujours été longtemps, en tout cas, un débat au sein de l'éducation nationale. Faut-il apprendre aux enfants le latin et le grec? L'helléniste Pierre Judet de Lacombe nous racontait il y a quelque temps pourquoi il fallait justement apprendre les langues mortes aux jeunes gens.
D'abord, il faut bien dire que, comme le latin et le grec sont des langues mortes, elles n'appartiennent à strictement personne. Et elles n'appartiennent plus à la bourgeoisie. Elles n'appartiennent aussi plus à tel ou tel pays. Le latin, ce sont des langues méditerranéennes. Et donc, Saint-Augustin, qui était berbère, est un très grand écrivain latin. Et donc, pour notre société qui est hétérogène, qui est divisée, de plus en plus divisée, et de plus en plus folle, donc là, on a quelque chose, non pas un héritage, mais on a un exercice de langue. On apprend ce qu'est une langue. En plus, ce n'est pas n'importe quelle langue. Et ce n'est pas le sanskrit ou le chinois ou le... ou une autre langue du passé, c'est une langue européenne. Alors non pas que nous soyons les descendants des Grecs, par exemple, absolument pas, on a oublié le grec pendant des siècles en Europe, et ce sont des ancêtres qu'on s'est donnés, c'est-à-dire qu'on sont des ancêtres d'adoption. On apprend aussi l'histoire. Or, on apprend le rapport langagier à l'histoire, comment les mots ont évolué, comment les conceptions ont évolué, etc. Or ça, c'est le point, à mon avis, capital, c'est l'argument central pour dire il faut faire des langues historiques.
Françoise Nord, est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre Judet de Lacombe? Il faut faire des langues historiques dans le parcours d'enseignement des jeunes Français, en l'occurrence.
Oui, je suis tout à fait d'accord, parce qu'en effet, bon, d'une part, d'un strict point de vue linguistique, ces langues sont très intéressantes. Elles sont peut-être apparaissent-elles un peu difficiles dans leur grammaire à nos yeux, parce que nous n'avons plus en français de déclinaison, alors que ces langues, elles en ont, mais elles sont vraiment passionnantes parce qu'elles ouvrent également sur l'histoire, comme ce monsieur vient de le dire, et sur la littérature antique, la littérature latine, ainsi que la littérature grecque. Je recommande chaudement l'apprentissage. Oui.
Depuis 2017, quand même, le latin est revenu au programme des collèges, mais il reste optionnel. Est-ce que vous envoyez un message à notre nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye?
Eh bien, si je me permets, je pourrais lui suggérer, en effet, d'en encourager l'étude et de la promouvoir en quelque sorte, d'y intéresser les jeunes adolescents, les tout jeunes adolescents justement, qui ne sont pas nécessairement au courant, au fait de ce à quoi ressemble le latin ou le grec. Il faudrait peut-être faire une petite initiation afin de leur montrer ce que sont ces langues, surtout de les y intéresser afin qu'ils deviennent peut-être plus tard des étudiants, en tout cas des lycéens, qui se pencherait sur ces deux langues.
Oui, puis on pourrait leur expliquer comme cela que le blue jean, par exemple, est d'origine française, parce que dans ce livre, vous faites la chasse aux vrais faux anglicismes, parce que certains disent « Ah là là, tous ces mots-là sont des mots qui sont empruntés à l'anglais ». Non, ils ont des racines françaises de la même manière que le bacon est français.
Oui, absolument.
C'est une révolution.
Oui, c'est une révolution. Alors, le bacon est français, c'est un mot d'ancien français que l'on prononçait bacon, qui a plu à nos amis anglais, qui nous l'ont pris et qui l'ont prononcé bacon. Ensuite, bacon est revenu en France. Mais déjà, bacon est un mot d'origine germanique et qui avait à peu près le même sens, c'est-à-dire morceau de viande de porc.
Et puis on va leur dire donc à ces jeunes gens que la grammaire est glamour, pour revenir au latin, et qu'il y a même quelques connotations parfois érotiques ou sexuelles dans l'étymologie, puisque virgule et verge, mais on ne fera pas plus de commentaires, ont une racine commune. Merci beaucoup Françoise Nord. J'en perds mon latin est édité chez L'Opportun de vive voix Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation, émission à réécouter sur RFI.fr bien sûr et sur les réseaux sociaux. À demain.